Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Donc, comme on l'a vu, la décarbonation du secteur du BTP s'impose. La conférence précédente nous a montré que des indicateurs d'empreinte carbone se déployaient. La construction durable est abordée dans différentes réglementations. Ce matin, Marta Tsidrak, la rapporteure du texte de la loi AGEC, nous a parlé de toutes les exigences contenues dans ce texte-là pour le secteur du BTP et a rappelé le rôle des pouvoirs publics dans l'accompagnement des industriels dans leurs nouvelles pratiques, notamment la fabrication de béton bas carbone à partir de matériaux recyclés. En France, la transition bas carbone pour le secteur du BTP est inscrite dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Publiée dans sa dernière version en mars 2020, elle est issue des engagements européens selon lesquels les États membres doivent élaborer des stratégies de transition bas carbone. La loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, la LTECV, a retranscrit cette exigence et a adopté l'objectif dit de facteur 4, réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990. Cette version a été révisée en 2018-2019 et a rehaussé l'objectif pour atteindre la neutralité carbone totale en 2050. L'objectif de cette conférence est d'interroger la faisabilité de la transition bas carbone du secteur avec la contrainte de ressources qui existe aujourd'hui et qui est réaffirmée par les pénuries, les inflations, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les accès de plus en plus difficiles à des ressources stratégiques et des tensions géopolitiques qui en découlent. Pour l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, qu'Emmanuelle Ledoux, sa directrice générale, représente ici, la décarbonation du bâtiment sera facilitée par l'économie circulaire et ses piliers. L'approvisionnement plus durable et local, une plus grande éco-conception des bâtiments, autorisant une modularité du bâti, des opérations de déconstruction préservante qui permettront de revaloriser des matériaux de préférence in situ dans un contexte plus local et, en somme, une transformation des pratiques courantes. C'est l'objet d'une étude que l'INEC conduit actuellement avec Capgemini qui sera prochainement publiée. La SNBC sous contrainte de ressources, nous analysons trois secteurs, à la fois la construction, la valorisation des biomasses et l'électrification. L'idée sera de confronter les premiers résultats de cette étude avec le point de vue d'un industriel représenté ici par Olivier Servant, directeur de Saint-Gobain Solutions France, pour voir comment l'économie circulaire s'inscrit dans la stratégie d'un grand groupe du BTP. Peut-être avant de rentrer dans le contexte d'élaboration de cette étude, je peux vous faire réagir sur les liens entre décarbonation, de la construction, de l'économie et économie circulaire.
Alors bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc pour ma part, je représente le groupe Saint-Gobain et effectivement le groupe Saint-Gobain est au cœur des mutations du domaine du bâtiment, à la fois d'un point de vue industriel mais aussi d'un point de vue de nos réponses au secteur du bâtiment. Et sur le lien entre stratégie bas carbone et économie circulaire, le lien qu'on fait est différent selon si on adresse le marché du bâtiment neuf ou le marché du bâtiment existant. Très clairement, la question ne se pose pas de la même manière pour nous. Lorsque l'on parle de bâtiments existants, on parle de bâtiments qui sont majoritairement très consommateurs d'énergie, qui sont déjà construits et pour lesquels l'enjeu principal, c'est de les rénover à des niveaux de performance qui soient les meilleurs standards de performance. On a récemment parlé dans la loi Climat et Résilience de la rénovation globale et performante. On fait partie des groupes qui poussent vers les meilleurs niveaux de performance et vers les meilleurs niveaux de standards de rénovation, que ce soit des sujets de rénovation énergétique ou des sujets d'amélioration des conforts, des qualités d'usage, pour permettre à notre parc existant, qui est un patrimoine historique et qui est un patrimoine qui existe déjà, d'être rénové pour être remis au goût du jour, pour s'adapter aux usages. On sait qu'aujourd'hui, sur le patrimoine existant, on sait diviser par 4, 5, 6 les consommations énergétiques par l'application de travaux de rénovation au meilleur standard. Et donc, bien entendu, sur le parc existant, le premier sujet, quand on parle d'atteinte de la stratégie bas carbone, des objectifs à 2050, et d'économie circulaire, c'est de faire en sorte de réutiliser ce parc existant, éviter de détruire, reconstruire, bien entendu, et faire en sorte d'amener ce parc existant aux meilleurs standards de qualité, aux meilleurs standards de performance, évidemment avec un cap prioritaire sur la sobriété énergétique, puis ensuite une décarbonation des usages, bien entendu. Quand on parle de bâtiment neuf, le sujet ne se présente pas de la même manière. Sur un bâtiment neuf, lorsque l'on fait un calcul en analyse des cycles de vie, c'est ce qui ressort avec les calculs de l'Aéro 2020, on a à peu près le même poids carbone de la construction et de l'impact carbone des matériaux du bâtiment. Et on est à peu près au même niveau quand on fait le calcul de l'impact carbone de l'usage du bâtiment avec ses consos d'énergie, ses externalités, ses consos d'eau, etc. Et donc là, on a une balance plus mesurée lorsque l'on veut optimiser l'impact environnemental d'un bâtiment neuf. Et là, effectivement, on a un effort plus massif à faire en termes de décarbonation des matériaux, en termes de réutilisation de matériaux, de réutilisation de ressources pour vraiment alimenter, accélérer les boucles d'économie circulaire.
Merci Olivier. Emmanuel, vous souhaitez prendre la parole peut-être et puis enchaîner avec la présentation de la SNBC sous contrainte de ressources.
Alors l'idée de la SNBC sous contrainte de ressources est venue justement en lisant la SNBC et en regardant différents projets. Alors dans la SNBC, donc Stratégie Nationale Bas Carbone, donc l'idée c'est la décarbonation de la France à horizon 2050, donc un texte comme l'a dit Amélie, la dernière version date de mars 2020. En la lisant, alors les projections en matière de décarbonation sont significatives, sont importantes, il y a une vraie stratégie qui est mise en œuvre. Par contre, quand on a commencé à chercher un petit peu au sein de ce texte si la question de la ressource était abordée, il s'est avéré que fondamentalement non. Enfin, ça apparaît légèrement, je crois que c'est le quatrième point de vigilance de l'entrée énergie qui indique que oh là là, c'est super ce qu'on est en train d'écrire, mais il va falloir regarder si on a quand même les ressources qui permettent d'y arriver. Quand on parle électrification, on va parler batterie. Quand on parle bâtiment, on va parler ciment. Enfin voilà, tout ça finalement n'était pas évalué à l'aune de la contrainte de ressources. Et mars 2020, je pense que c'est aussi une date qui fait un petit peu écho pour tout le monde. C'est alors juste après la loi AGEC, certes, mais c'est aussi juste au moment où le monde entier s'est retrouvé confiné. Et où la question de la ressource, au-delà même de ce qui avait pu arriver avec des transformations assez fortes induites par la loi AGEC, est devenue une réalité. C'est-à-dire, si on reprend un peu la genèse de la loi AGEC, la feuille de route économie circulaire d'abord, la dimension sécurisation des approvisionnements apparaissait dans les textes, mais il faut être lucide, pour tout le monde, c'était une vue de l'esprit. On ne se disait pas qu'un jour, la planète allait être bloquée et les matériaux n'arrivaient plus. On pouvait parler d'une question de criticité prix, parce que c'était arrivé, criticité volume, mais la criticité logistique ne faisait pas vraiment partie des sujets qui étaient dans les têtes. Mars 2020, blocage de la planète, on ne va pas refaire tout le film, mais la dimension sécurisation des approvisionnements a permis de rentrer dans la question de l'économie de la ressource de façon très différente et beaucoup plus tangible. Donc j'en reviens à la SNBC sous contrainte, littéralement c'est ça. C'est de se dire, on peut avoir une stratégie de décarbonation, c'est hyper intéressant, on va avoir une stratégie biodiversité qui est extrêmement intéressante, on a des stratégies plein économie circulaire, le plastique, élimination du plastique à usage unique en 2040, tout un tas d'objectifs qui sont assez forts, sauf que si tout le monde avance dans son couloir, fondamentalement ça ne marche pas. On peut décarboner en augmentant nos besoins de ressources. Si les ressources ne sont pas là, on aura pu écrire toutes les stratégies qu'on veut. Derrière, on sera complètement incapable de les dérouler. Donc, le travail dans lequel on s'est lancé, alors qu'avec Capgemini, qui n'est pas là parce qu'ils sont en train de finir de modéliser, c'est comme toutes les études, normalement, on était censé l'avoir sorti déjà, et bon, on a pris du retard. Hein. Donc là, ils sont devant leur ordinateur en train d'accélérer sur la modélisation. L'idée, c'était vraiment de reprendre ce texte et de regarder, alors pas secteur par secteur, pas d'un côté la mobilité, d'un côté la construction, d'un côté l'énergie, en faisant en plus comme s'il n'y avait pas de compétition d'usage, alors qu'on sait pertinemment que c'est faux, mais de regarder par rapport à la stratégie de décarbonation qui est la nôtre, comment ça passe au niveau ressources. Alors spoiler, ça passe pas, hein, enfin, d'autant que toutes les trajectoires qu'on a pu indiquer dans la SNBC, il faut être lucide, on ne les tient pas. La SNBC, ça indique qu'en 2050, on recycle 80% de tout. Pour l'instant, on recycle que 5% du plastique, par exemple. Donc on voit bien qu'on n'est pas exactement sur les bonnes trajectoires. Donc voilà, l'idée, c'est de reprendre point par point, secteur par secteur, et d'avoir cette vision très holistique de est-ce que ça passe en matière de ressources, de regarder comment on peut faire que ça passe s'il s'avère que, pour l'instant, avec un scénario tendanciel, on est un petit peu loin du compte. Et enfin, parce que notre objectif est évidemment pas de faire la future SNBC, hein, on a l'État pour ça, mais justement de pousser cette dimension ressources dans les futurs textes et dans les futures stratégies, Alors ça va aller assez vite, hein, la loi qui doit être votée, qui prévoit l'organisation de la construction de la SNBC 3, elle doit être votée avant juillet 2023, et pour une élaboration SNBC 3 avant juillet 2024. Donc c'est en ce moment que ça se passe, et je pense que là, collectivement, même en sortant d'ailleurs d'une lecture environnement qui a souvent été la nôtre, hein, traditionnellement, nous l'INEC, on existe depuis un peu moins de 10 ans, nos acteurs habituels, nos copains de jeu, c'est les directeurs du développement durable. Là, on voit bien qu'on sort un peu de ce champ-là et qu'on rentre directement sur les questions stratégiques. Parce qu'on peut en avoir rien à cirer de l'environnement si on n'est pas en capacité de sécuriser ses approvisionnements. Le modèle économique derrière, il tombe aussi. Donc voilà, l'idée, c'est alors de profiter, le mot est évidemment un peu fort, hein, compte tenu du contexte désastreux dans lequel on est, mais en tout cas, voilà, de se dire que cette prise de conscience ressource, elle existe, que bon, il se trouve qu'en général, les directeurs du développement durable, c'est pas les chefs des directeurs de la stratégie, mais là, comme ça intéresse aussi la stratégie, les finances, les RH, ça permet d'accélérer sur ces sujets-là, et voilà, et de pousser collectivement pour que la question de la ressource soit centrale aussi dans les stratégies décarbonation, donc que ce lien il soit permanent, quoi, et pas juste un point de vigilance occasionnellement dans un texte.
Olivier Servant, est-ce que vous avez une première réaction à cette étude?
Alors, pour l'instant, j'attends avec impatience que l'étude soit publiée. Vous parliez de conflits liés aux déchets qui deviennent ressources. Typiquement, un groupe comme Saint-Gobain, on y est clairement confronté sur un certain nombre de ressources. On parle par exemple de la filière du calcin. Tout le monde connaît historiquement les boucles de recyclage de la filière du calcin avec du verre bouteille qu'on met dans des casiers depuis des années, depuis qu'on est tout petit, qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, en France, il y a une vraie guerre d'accès à ce calcin parce qu'on peut en faire plusieurs choses. On peut en faire des bouteilles, on peut en faire de la laine de verre, et dans un certain nombre de cas, on peut en refaire du verre plat pour pouvoir refaire des vitrages pour les bâtiments. Sauf qu'il y a une vraie guerre en termes de volume, et il y a aussi une vraie guerre en termes de précision et de capacité à caractériser la qualité, la pureté du calcin. Et vous imaginez bien qu'on n'utilise pas du tout le même calcin quand on veut faire du verre plat que quand on veut faire de la laine de verre ou quand on veut refaire du flaconnage. Et donc du coup, aujourd'hui, vous avez un certain volume de calcin. On a un très fort enjeu à structurer les filières de récupération pour pouvoir recycler le calcin issu du verre bâtiment. Et donc on investit beaucoup, par exemple, sur des sujets comme avec des partenaires pour pouvoir démanteler des menuiseries, déposer de manière sélective et propre des menuiseries ou des façades rideaux de bâtiment pour pouvoir donc injecter ces verres plats dans des process de fabrication de nouveaux verres plats. Parce qu'on ne peut pas mettre de verre bouteille, on ne peut pas mettre de déchets de laine de verre dans des futurs verres. Donc du coup, il y a un vrai enjeu à faire grossir les volumes de calcin, mais surtout grossir les volumes de calcin pour nous, qui sont des volumes de calcin propres, purs, pour permettre justement d'alimenter la machine à reproduire du verre et donc décarboner fortement le vitrage, puisque on a une capacité de décarbonation de l'ordre de 25 à 30% du verre plat neuf, par injection de doses importantes de calcin dans le process, dans la matière première. Donc évidemment, aujourd'hui, ça fait partie des enjeux très forts pour nous que d'arriver à analyser les différentes filières de déchets pour identifier de quelle manière on doit aider la structuration des filières pour déposer de manière sélective, trier, récupérer nos produits, enfin nos déchets qui vont devenir la matière première de nos produits de demain. Donc on a levé un certain nombre de verrous technologiques pour pouvoir réinjecter des matières premières secondaires dans nos process de fabrication. On a aussi levé un certain nombre de verrous et on continue à essayer d'en lever un maximum des verrous administratifs pour arriver à accueillir des déchets sur nos sites de production. Et c'est pas une mince affaire, on n'est pas toujours aidé par l'administration pour faire ça. Mais effectivement, c'est un process qui est en cours et on fait des investissements massifs en ce sens-là en ce moment.
Emmanuel, peut-être vous souhaitez rebondir sur ce que vient de dire Olivier, sur voilà, le soutien que les pouvoirs publics peuvent apporter à ces nouvelles pratiques-là.
Alors merci, j'adore que tu veux voir, on travaille ensemble. Mais bon, c'est vrai que ça fait plus. Alors les pouvoirs publics, oui, il y a des vrais enjeux. Alors il y a la REP bâtiment, alors je crois que beaucoup étaient là sur la conférence d'avant et ça a été largement abordé. Donc peut-être n'y revenons pas, d'autant que je pense que pour tous ceux qui suivent, vous avez pu voir que ça a pris un léger retard, alors sans doute pour approfondir encore la qualité de la REP qui va sortir. Enfin, Je pense, nous, le sujet sur lequel on se concentre en ce moment et sur lequel il y a beaucoup à faire, c'est la question de la commande publique. Et c'est peut-être là où, en plus, ça bouge le plus. Alors, sur la commande publique, différents sujets. Déjà, il y a des textes, maintenant, parce que le moins disant, le mieux disant, enfin, pour ceux qui suivent un peu ces sujets, c'est pas exactement nouveau dans le débat public. Mais là, avec le décret de l'article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et vraiment l'accélération de ces sujets-là et de cette prise de conscience dans les pouvoirs publics, on voit quand même il y a au-delà d'un frémissement et une vraie compréhension de ces sujets. Après, derrière, et c'est là enfin, la question pouvoir public et accompagnement, je pense qu'on a encore un peu un truc. Alors, c'est toujours quand les politiques échouent, c'est tout de suite toujours là-dessus qu'ils appuient sur le côté, le déficit de pédagogie. Mais il y a un petit peu de ça. Quand on voit les questions d'économie circulaire, comment elles sont traitées au niveau des collectivités, on voit que ça va toujours assez vite là où il y a une vraie appétence citoyenne et une compréhension du sujet. Alors, prendre un exemple, l'alimentation. Les cantines scolaires, en général, c'est le premier truc qu'on va nous sortir en disant que, bon, voilà, là, ils ont fait des choses, il y a des circuits courts, une lutte contre le gaspillage. Et au fond, c'est assez normal, parce que déjà, ce que les enfants mangent, ça intéresse un peu tout le monde, d'une part. Les circuits courts, on voit à peu près de quoi il s'agit, le champ, l'assiette, etc. Et le gaspillage alimentaire, c'est sans doute le plus insupportable en matière de gaspillage. Alors, personne n'est pour le gaspillage, hein. Il n'y a pas d'association de promotion du gaspillage, mais dans ce qui choque le plus, là, il y a un effet vaste communicant, je jette de la nourriture, des gens n'ont pas assez à manger. Sur les matériaux du bâtiment, la prise de conscience, elle est plus lente déjà. Il n'y a pas des gens qui meurent faute de laine de verre recyclée. Quoi. Donc, on est quand même sur une prise de conscience qui est un peu différente. Et donc, le portage politique, il est moindre. Et cette idée, alors je reviens, j'ai un peu une obsession sur l'holistique, mais comment on arrive, et pour avoir aussi cet accompagnement des pouvoirs publics, avoir des sujets porteurs. Donc, nous, on essaye, par exemple, de traiter vraiment des sujets d'économie circulaire avec cette idée de comment le maire peut répondre à la PQR s'il est interrogé, ou aux gens à la queue de la boulangerie le dimanche matin quand il va acheter ses croissants. C'est de se dire, voilà, on travaille sur quelque chose qui est très multifilière. Par exemple, on a travaillé sur l'école en se disant, bah, une école, c'est super. Hein. Une école, tout le monde voit ce que c'est. Et puis, bah, une école, il y a un bâtiment qu'on construit, qu'on rénove, qu'on approvisionne énergétiquement. Il y a les revêtements de sol, il y a les cantines, on en a parlé. Les fournitures scolaires, les papiers, les bics, les trucs. Et ça, derrière, on se dit qu'il peut y avoir du partage politique parce qu'il y a un sujet que tout le monde visualise et comprend. C'est vrai que dès qu'on commence à rentrer dans ce que tu évoquais, mais où les questionnements sur filière de recyclage de laine de verre, etc., c'est plus compliqué. Donc, ça a plus de mal à irriguer et à transformer. D'autant aussi qu'on se retrouve avec la question de l'hypertechnicité. Donc ça, c'est peut-être l'autre sujet où il y a vraiment un accompagnement, mais peut-être aussi des pouvoirs publics à avoir du côté là, des offreurs, hein, de tout le monde. C'est comment on sécurise ça. Il y a encore des... alors, tu as évoqué la question sortie de statut de déchet qui est un vrai problème de blocage qui va finir par se lever. La question assurantielle, elle n'est pas neutre. Hein. Derrière, c'est aussi des responsabilités, hein, les lieux en charge. Donc, et comme on voit bien quand on passe en général un truc dans un système, un service juridique, tout le monde va avoir un peu tendance à se couvrir. Donc, c'est pas si simple de bouger. Et enfin... c'est des services d'achat qui sont pris, et j'en finirai là-dessus, mais sur une double, voire triple injonction de sécuriser leurs achats, faire comme d'habitude, mais mieux et plus circulaire, et enfin, sans dépenser plus. Et là, pareil, on va être lucide, hein, dans pas mal de domaines, l'économie circulaire, c'est plus cher, parce que bah, c'est plus de main-d'œuvre. D'ailleurs, on se félicite souvent, alors pas forcément ici, mais dans d'autres CNAC, c'est « Waouh, regardez tous les emplois que l'économie circulaire crée ». Bah, voilà, ça va avec, c'est un petit peu plus cher économiquement, hein, quand on paye des gens avec des types de revenus qui sont plutôt des salaires français que des salaires indonésiens, évidemment, on a un surcoût qui s'opère. Et donc, c'est aussi une nouvelle organisation économique, la question des filières recyclage, des filières réemploi, l'emploi que ça se crée, de l'économie du PIB local et comment on arrive vraiment à valoriser ça, à valoriser qu'on fait revenir de l'emploi, de l'industrie, que c'est des filières qui sont intéressantes, qu'il y a aussi une forme de fierté hein, de travailler sur son territoire. Donc c'est beaucoup de paramètres qui sont à mettre en œuvre les uns à côté des autres. Et je pense que pour les pouvoirs publics, il y a vraiment cette volonté de comprendre aussi derrière pour pouvoir améliorer à la fois ces politiques achats, mais aussi les normes qui peuvent être créées.
Alors, sur ce point-là, pour rebondir par rapport à ce que tu nous exposes, on a la chance dans la filière bâtiment d'être dans une filière hyper locale. Compte tenu sur les matériaux de construction, compte tenu du poids, du prix et des volumes que représentent les matériaux de construction, on a une une extrême majorité de matériaux qui sont fabriqués en France pour être utilisés en France. Et donc, on a déjà cette imprégnation hyper locale. Si on prend l'exemple d'un groupe comme Saint-Gobain, Saint-Gobain sur la France, c'est 80 usines, c'est à peu près 90 sites de production principaux. Et c'est 2200 agences de distribution de matériaux. Donc, y a, ne serait-ce que sur un groupe comme Saint-Gobain, une imprégnation locale. Vous avez un point de distribution Saint-Gobain tous les 9 km en France. Vous en avez deux fois plus que de McDo, pour vous figurer l'idée. Donc, on est sur une filière qui est extrêmement locale. On a la chance, justement, de pouvoir s'appuyer sur cette filière historique locale et de pouvoir maintenant accélérer le mouvement grâce à la REP, grâce à l'implication des gros acteurs qui aujourd'hui prennent en main justement des engagements et des investissements pour pouvoir développer des boucles d'économie circulaire à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Et on a la chance d'avoir cette filière qui s'y prête. On part de loin, il faut quand même se le dire. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un travail très important pour pouvoir identifier à toutes les étapes de la chaîne de valeur du déchet comment on fait pour faire en sorte qu'on puisse... déconstruire de manière sélective, récupérer les déchets, les réintroduire dans des process de réemploi, de revalorisation de déchets sous forme de ressources pour en refaire des nouveaux produits et faire en sorte de développer technologiquement les solutions qui permettent de réduire l'impact environnemental des nouveaux produits sur le marché par utilisation de ces matières premières, mais aussi de développer des nouvelles solutions qui permettent à performance identique d'améliorer la durée de vie des produits, de mettre sur le marché des produits qui permettent une démontabilité, ce qui n'était pas forcément dans les process d'innovation qu'on avait jusque-là dans la filière bâtiment. Mais aujourd'hui, sur le marché, on voit de plus en plus, et c'est inscrit par exemple chez un groupe comme Saint-Gobain, dans les process innovation, il faut que les nouvelles solutions mises sur le marché permettent une démontabilité pour permettre une évolutivité dans le temps des bâtiments, adaptation à leurs usages et permettent donc une récupération et un réemploi ou un recyclage des composants des différentes solutions mises en œuvre. Donc toute cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est bousculée, qui est largement accélérée avec la prise de conscience actuelle. La REP sur les produits et matériaux de construction du bâtiment est clairement un fort accélérateur. Je fais partie des personnes qui sont particulièrement agacées par le retard qui est pris dans la mise en place de cette REP. Et donc, on avait au niveau du groupe Saint-Gobain et avec 26 actionnaires et maintenant 28 actionnaires créé un éco-organisme en anticipant l'entrée en vigueur de la REP qui devait intervenir au 1er janvier 2022. On a créé à l'été 2021 la société Valobat, l'éco-organisme multimatériaux qui avait vocation à répondre au cahier des charges d'agrément. On est aujourd'hui en avril 2022. On a une date d'application qui a été décalée d'un an. On attend toujours avec impatience le cahier des charges d'agrément pour que cette société...
Ils ont le doigt sur envoyer à chaque fois qu'on demande. Ça part.
On attend toujours avec impatience ce cahier des charges. On a une société qui a été créée avec 6 mois d'avance par rapport à un calendrier qui a maintenant été décalé d'un an. Donc, il est urgent que l'on puisse effectivement mettre en place ces engagements qui ont été pris dans la loi. Et on est un certain nombre de gros industriels leaders de nos marchés à nous être engagés, y compris financièrement, à faire en sorte que ça entre en vigueur et qu'on alimente à la fois l'aval de la chaîne sur le tri, la récupération gratuite des déchets triés sur les points de collecte du maillage territorial de la REP, mais aussi les investissements pour permettre de développer les boucles de recyclage et les cas particuliers dans lesquels on pourra développer du réemploi. Donc espérons que ça sorte rapidement.
Ouais, le départ de la manifestation vers le ministère de la Transition écologique pour exiger la REP maintenant et là dans 10 minutes devant le hall 4. Rejoignez-nous.
Olivier, en préparant la conférence, vous nous aviez aussi parlé du booster du réemploi avec lequel vous avez noué un partenariat en 2022.
Alors oui, effectivement. Alors ça fait partie des choses sur lesquelles on évolue, comme tout le monde, sur les sujets de l'économie circulaire. Et donc, du côté du groupe Saint-Gobain, alors quand on a regardé les différents maillons de la chaîne de valeur, on a noué des partenariats, on a investi dans des sociétés pour permettre de développer des systèmes de tri sur chantier, d'autres sociétés pour créer des mécaniques d'enlèvement extrêmement adaptées à chaque typologie de chantier pour enlever des déchets, pour pouvoir les ramener dans des centres de massification. On est en train d'investir pour pouvoir déployer de manière de plus en plus importante sur un certain nombre de nos agences de distribution chez Point P, à la plateforme du bâtiment, des zones de tri sélectif multiflux sur nos agences de négoce pour pouvoir contribuer au maillage territorial de la REP. On est par ailleurs en train d'investir dans des unités de transformation des déchets en ressources pour pouvoir réinjecter les ressources dans nos usines sur nos matériaux, le plâtre, la laine de verre, le verre, on en a parlé tout à l'heure. Et il y avait une partie pour laquelle on n'avait pas encore, jusqu'à début de cette année, pas encore adressé le sujet de manière organisée. C'était le sujet du réemploi d'un certain nombre de gammes de solutions techniques qui le permettent. Alors, on sait bien que sur un bâtiment, quand on déconstruit un bâtiment, la majorité des produits, on ne va pas y arriver à réemployer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à réemployer, mais c'est important de rentrer dans une phase où on va analyser de manière fine tous les produits qui pourront être déconstruits de manière suffisamment propre, sélective, et qui pourront être recaractérisés pour permettre un nouvel usage sans passer par la case recyclage, en passant par une case réemploi, avec donc des business models de produits d'occasion qui se développent pour l'instant de manière malheureusement relativement anecdotique encore et sur des gammes très très spécifiques. Et donc c'est pour cette raison qu'on a décidé cette année de monter un partenariat avec le booster du réemploi qui s'est spécialisé dans le domaine, dans le benchmark autour des meilleures pratiques autour du réemploi, justement pour pouvoir identifier les cas sur lesquels cet accompagnement expert tiers pourra nous permettre de progresser sur ce domaine qui jusque-là était encore un angle mort dans le groupe Saint-Gobain et qui maintenant devient un axe de priorité pour nos développements futurs.
Merci beaucoup. Alors, on devait avoir la participation de notre partenaire Capgemini, mais qui a dû s'absenter, donc on a un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que vous souhaitez réagir aux différentes interventions ? Ouais, question.
Je vais lui donner mon micro.
Attends.
Bonjour, ouais. Merci pour cette intervention. Moi j'avais un peu une question sur la disponibilité de la ressource, je pense que ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Typiquement sur le calcin, vous dites, alors au-delà de la compétition entre les différentes industries, est-ce que vous, en gros ça mène, vous avez dit, à 20 à 30% de réduction d'empreinte environnementale du verre, mais est-ce que c'est généralisable à l'ensemble du verre qui est produit ? Parce que c'est un peu le problème qu'on a typiquement avec le béton aujourd'hui, les bétons bas carbone, c'est qu'en fait, le laitier de haut fourneau qui sert à le faire, en fait, on n'en a pas assez pour produire pour le généraliser à tout l'ensemble du béton. Alors, est-ce que dans le cas du verre, c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont technologiques qui permettraient aussi cette réduction ?
Alors, sur le verre, la fabrication du verre plat, on est en train exactement en ce moment même de faire des tests de production de verre issus 100% de calcin, avec 100% de matière calcin. Donc pour l'instant, le 100%, on est en train de le tester. Je ne sais pas vous dire si le verre à l'issue aura les mêmes performances, les mêmes qualités. On est vraiment en ce moment même en train de le faire. Je ne peux pas vous dire mieux. Par contre, on sait qu'on a déjà fait des campagnes de production avec du 80% de calcin. Et c'est là, effectivement, qu'on voit qu'on a des températures de fusion qui sont plus faibles pour le calcin. On a donc, du coup, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive, effectivement, à réduire l'impact environnemental à performance identique sur le verre qui sort du float. On réduit entre 20 et 30% et plus on monte le taux de calcin, et plus on réduit l'impact environnemental, l'impact CO2 du vitrage en sortie de ligne. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que, sauf à ce qu'on ait des mauvaises surprises sur ces campagnes de prod 100% calcin, a priori, on sait fabriquer du verre avec les mêmes performances qu'aujourd'hui, issu 100% de recyclage. La difficulté principale, c'est qu'il nous faut du calcin propre. Et aujourd'hui, on a vraiment un enjeu important à aller démonter proprement le verre plat dans les déconstructions pour pouvoir alimenter cette boucle de production, parce qu'on ne peut pas mettre de verre bouteille. Et donc, du coup, on a un problème de volume de calcin disponible, et c'est pour ça qu'on investit fortement avec des partenaires dans la structuration de la filière pour récupérer le calcin propre pour permettre l'utilisation pour fabriquer du verre plat. Après, on a au sein du groupe une histoire longue d'utilisation de calcin dans des usines de laine de verre. Aujourd'hui, quand vous achetez de la laine de verre, vous avez entre 40 et 80% de la masse du produit que vous avez acheté qui est issu de la filière de recyclage de calcin. Et là, on met n'importe quel type de calcin, le calcin bouteille majoritairement. Néanmoins, c'est aussi pour cette raison, parce qu'on a besoin de plus de calcin, qu'on a créé depuis maintenant 4 ans les prémices d'une filière de récupération et de recyclage des déchets de laine de verre sur chantier, récupérée sur chantier. Et donc, ça vous aura sans doute pas échappé. On a annoncé il y a 2 semaines un investissement supplémentaire pour permettre en France d'avoir 2 capacités de recyclage de la laine de verre pour justement pouvoir avoir un meilleur maillage territorial, parce que transporter du déchet à travers la France pour le recycler, d'un point de vue environnemental, ça n'a pas grand sens. On sait bien que c'est une période intermédiaire de structuration de filière. Et donc là, on a déjà franchi l'étape d'après. On a annoncé il y a 2 semaines qu'on investissait plusieurs millions d'euros pour pouvoir créer un deuxième four de fusion de laine de verre sur une deuxième usine. Le premier était sur notre usine d'Orange. Le deuxième sera sur notre usine de Chemillet en Anjou à côté d'Angers. Et donc, du coup, ça nous permet de développer notre maillage territorial pour permettre justement d'optimiser l'impact environnemental de ces boucles de collecte de déchets.
Merci.
Oui. Oui, bonjour. Déconstruire, trier, massifier, etc., ça coûte aussi forcément très cher. Et d'ailleurs, ça a aussi une empreinte environnementale non négligeable. Est-ce qu'on est capable de dire si, au final, ça peut être rentable, et sinon, quels seraient les surcoûts et quels seraient aussi, et est-ce qu'on est sûr et certain que l'empreinte environnementale est nettement meilleure en déconstruisant et recyclant qu'en utilisant des matériaux vierges?
Alors, deux choses. Quand on fait une analyse de cycle de vie de bâtiment, qu'on prend un bâtiment existant et qu'on compare le cas où on l'a rénové et le cas où on l'a démoli, reconstruit, l'impact sur l'indicateur IC composant de la RE 2020, donc l'impact environnemental en CO2 des matériaux, est multiplié par 4 si on déconstruit et qu'on reconstruit par rapport à un cas où on rénove, pour la même performance à l'arrivée. Donc, bien entendu, on a un enjeu important à maintenir en place le maximum de matériaux et ne pas déconstruire, reconstruire à outrance, parce que d'un point de vue environnemental, ça n'a pas de sens. Après, il y a effectivement des cas très divers et variés dans la récupération et la vertu des boucles de recyclage des déchets. Il y a des cas dans lesquels récupérer un déchet recyclé, ça coûte plus de CO2 que de fabriquer de la matière première noble, comme vous le disiez. C'est un état souvent intermédiaire, parce qu'on est dans des filières qui sont en balbutiement, qui sont en démarrage. Et donc ça vient souvent du maillage territorial qui n'est pas le même. Ça vient souvent d'une ressource qui, quand on récupère un déchet à Strasbourg et que l'usine est à Biarritz, transporter un déchet de Strasbourg à Biarritz alors que la matière première était 50 km à côté de l'usine, vous comprenez bien que dans ces cas-là, on a un problème. On a un problème parce qu'on a l'impression d'avoir fait un travail de qualité et d'avoir récupéré du déchet pour moins de prélèvements à la planète. Par contre, on a mis des camions partout sur les routes et on a émis beaucoup de CO2. Donc, il faut regarder ça de manière très détaillée pour voir de quelle manière on peut faire monter en puissance des filières qui soient effectivement vertueuses. Et là, il faut regarder à la maille fine parce que la réponse n'est pas unique. D'un point de vue du coût, oui, ça coûte un petit peu d'argent, bien entendu, de déconstruire de manière sélective et de trier les déchets à la source pour permettre de les réinjecter dans les filières de recyclage et de réemploi. OK, c'est pour ça qu'il y a la REP. La REP est là pour ça. L'estimation de l'ADEME nous donne une REP sur les produits et matériaux de construction du bâtiment qui, en régime continu, pourrait coûter de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros au total. Donc, payé par les éco-contributeurs, donc les metteurs en marché de matériaux de construction comme moi, par exemple, et qui ensuite vont être répercutés dans la chaîne de valeur, bien entendu, mais qui vont permettre, par l'intermédiaire de l'éco-organisme, de reprendre gratuitement les déchets triés dès lors qu'ils vont être déposés sur les points de collecte. Et donc, du coup, pour un maître d'ouvrage, c'est un transfert de coût. Par contre, les déchets triés déposés sur les points de collecte seront repris gratuitement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec le prix du déchet à la tonne qui est payé systématiquement par tous les dépositaires de déchets.
Non, juste là-dessus, un point de complément sur la question tout à l'heure sur l'accompagnement des pouvoirs publics. Typiquement, la question des plateformes et donc de la disponibilité du foncier pour pouvoir mettre ces déchets une fois, enfin déconstruction, reconstruction, où est-ce que ça va quand ça a été déconstruit, ça fait partie des sujets sur lesquels pas mal de collectivités sont engagées, donc charge du foncier pour avoir un maillage territorial beaucoup plus fin.
Bonjour. En fait, j'aimerais savoir quelles sont, d'après vous, les principales ressources qui vont être sous tension dans les prochaines années. Et, parce qu'on a parlé du verre ou autre, mais dans la construction, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Et donc voilà, qu'est-ce qui va être mis en place pour les ressources principales du bâtiment, qui sont pour moi pas que le verre et, voilà.
Ça dépend un peu de quelle tension on parle. Il y a la question de la tension prix et la tension volume. Là, on est plutôt sur des criticités prix en ce moment. Enfin, les chantiers à l'arrêt, c'est beaucoup là-dessus. Et la question des approvisionnements. Alors, je pense que tu sauras mieux dire, mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu tout, hein, y compris le bois construction. Problème sur l'acier, béton, ça va à peu près, ça. Juste, alors, un point là-dessus, d'ailleurs, sur... j'ai vu il y a quelques jours passés, c'était l'architecte Philippe Rizzotti et le président du SFIC et de Lafarge qui disaient en substance qu'il faudrait que toutes les ressources de la construction soient valorisées comme l'or, en gros. Enfin, en tout cas, soient traitées comme si c'était de l'or. Et là, on en est un petit peu là sur pas mal, hein, mais...
En ce moment, c'est un peu difficile de faire la part des choses entre ce qui est du domaine du conjoncturel lié justement à la crise Covid, puis à la crise qu'on vit en ce moment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs marchés sur lesquels il y a une forte tension. Il y a le marché du bois et ça dure maintenant depuis plus d'un an. On a effectivement des tensions sur les approvisionnements nationaux en bois. Quel que soit le type de bois, et donc ça a conduit à des augmentations extrêmement importantes de prix et des vrais problèmes de disponibilité qui ont pénalisé les chantiers. On a aussi en ce moment, de manière très directe, des difficultés d'approvisionnement sur la filière de l'aluminium, qui cette fois-ci pose des difficultés pour les gamistes alu qui produisent des cadres de menuiserie, par exemple, ou des produits de fixation des façades rideaux. Donc on a cette partie-là sur l'aluminium est plutôt liée aux difficultés liées à la guerre actuelle en Ukraine. Et donc, je suis bien incapable d'imaginer à quelle date on saura résorber ces difficultés-là. Néanmoins, on est plutôt dans le domaine du conjoncturel. Contrairement à la filière bois, où là on a une difficulté structurelle qui nécessite une organisation de filière à l'échelle nationale qui aujourd'hui peine à se mettre en place. Et donc du coup, on a effectivement, matériau par matériau, un besoin d'analyse à la fois sur le court terme, mais aussi sur le moyen long terme. Sur le bois, on a besoin d'une structuration sur le moyen long terme de la filière et d'investissements importants. Si on prend d'autres filières, sur la filière béton, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté d'approvisionnement, on n'a pas de difficulté en volume.
Vous verrez, dans l'étude dont je parlais, on le fait fiche par fiche, hein, donc c'est imminent.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore cette conférence. Merci à vous. Ah, une dernière.
Tout bêtement, la date de sortie de l'étude.
Mi-mai. Pardon, excusez-moi. Mi-mai, normalement. Mais...
Merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Et la conférence qui va suivre se portera sur la REP et les verrous à lever.